jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8, MHz, onde femme, Radio Zone, grand soleil dans le ciel, mais dans vos oreilles sur 93.8, c'est la pleine lune comme tous les mercredis soirs à partir de 18h30 sur 93.8, onde femme, Radio Zone. Dans quelques instants, les informels, les nouvelles de la pleine lune et puis Marjolaine vous ouvre son cœur. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Sonde Femme, Radio Zone, les nouvelles. Les enfants défilent à Washington. Les organisateurs ont dénoncé la réduction de l'aide sociale par le Congrès. Plus de 200 000 personnes sont venues manifester à Washington, au pied du mausolée de Lincoln, dans une atmosphère de kermesse, pour prendre le parti des enfants. C'était le slogan de cette marche. Cette croisade des enfants était bien sûr venue livrer une bataille politique et faire le siège symbolique d'un congrès que les républicains dominent depuis 1984. Nous voulons envoyer un message politique, reconnaît Marianne Wright Edelman, fondatrice du Fonds de défense de l'enfance, une organisation que Hillary Clinton avait soutenue. Le Congrès, selon la plupart des organisations qui s'occupent d'enfants, est allé trop loin dans ses projets de réduction des programmes sociaux. Les élus ont entrepris pour établir l'équilibre du budget de démanteler les programmes d'aide sociale de l'État-providence, en même temps que de diminuer les impôts, tout en exhortant les parents à renouer avec les valeurs familiales traditionnelles. Il faut savoir qu'aux États-Unis, 10% des enfants américains de moins de 18 ans vivent dans une pauvreté extrême et 20% en dessous du seuil de pauvreté. Chaque jour, 8500 enfants sont victimes de sévices, 2900 abandonnent leur scolarité, 15 sont tués par des armes à feu, qui sont la deuxième cause de décès parmi les 15-18 ans et la première chez les jeunes noirs et latinos. En Allemagne, le législateur n'a pas prévu de partage de l'autorité parentale pour les couples non mariés qui ont ensemble des enfants. La tutelle est exercée par la mère et par elle seule, mais un juge contourne cette difficulté en se référant à une convention européenne, en attendant que la loi change enfin. Il y a longtemps, bien sûr, que les enfants nés hors mariage ne sont plus traités de bâtards en Allemagne, mais le droit pense toujours en termes de fille-mère et d'homme-volage qui a conçu son enfant à l'occasion d'une aventure sans lendemain. Le code pénal civil réserve encore quelques autres désagréments aux couples qui partagent leur vie sans la bénédiction de l'État. Par exemple, de parents, si des enfants perdent leur mère, ils seraient considérés comme orphelins de père et de mère et relèveraient d'un juge de tutelle. Le père naturel biologique ne pourrait s'en occuper. Si leur père mourait, ils ne pourraient jouir pleinement du droit d'héritage. Et si leurs parents se sépareraient, alors le père n'aurait plus aucun droit de visite. En Allemagne, un nouveau-né sur 6 est un enfant de parents non mariés. Entre 1970 et 1994, ce pourcentage est passé de 5% à 13% à l'ouest pour obtenir jusqu'à 40% à l'est. À Hambourg, près d'un enfant sur 4 naît de parents non mariés et à Berlin, c'est un enfant sur 2. Le tribunal constitutionnel de Karlsruhe devrait aussi se prononcer sur le droit de garde conjointe pour des couples non mariés. Il a été saisi par une femme qui demande que son enfant soit, qu'elle puisse partager la garde de son enfant avec le père de l'enfant avec qui elle vit. En Europe, l'Allemagne exceptée, il ne reste plus que la Suisse pour refuser ce droit aux couples non mariés. Déjà en 1991, les juges du tribunal avaient alerté le législateur pour qu'il mette, je cite, de toute urgence en conformité le droit régissant les couples non mariés avec la loi fondamentale. 5 ans plus tard, le gouvernement finissait par obéir et élaborer un projet de réforme. Quelques changements sont arrivés, mais on espère que bientôt les parents qui rechignent au mariage n'auront plus à l'avenir qu'à faire une seule déclaration s'ils veulent partager le droit de garde. Mais personne n'y croit vraiment et on trouve là une étrange alliance, comme le dit un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, entre les conservateurs et les féministes. Ils ont bloqué les deux toute évolution en la matière. Le porte-parole du groupe parlementaire chrétien-démocrate, lui, ne voit pas de lacune dans la législation actuelle. De toute façon, les enfants hors mariage ne devraient pas exister. On doit se marier. Quant aux féministes du Parti social-démocrate, les Verts et le Parti du socialisme démocratique, elles craignent un recul du droit des femmes dès lors que les pères non mariés obtiendraient des nouveaux droits. Est-ce que ça va changer ? Les juges et certains couples l'espèrent. En France, les enfants font des leçons, on donne une leçon aux adultes. Et oui, le Parlement des enfants était massivement féminin. Place aux filles. Pour sa troisième édition, le Parlement des enfants, organisé par le président de l'Assemblée nationale, a innové. Sur les 577 députés juniors élus dans les classes, il y avait 305 filles. Une sacrée leçon pour les aînés, a souligné le député maire d'Épinal, avant de rappeler que la véritable Assemblée ne compte-t-elle que 35 femmes. Plus nombreuses, les filles ont été aussi plus loquaces. Sur 10 questions posées, 7 l'ont été pour les filles. Pour le reste, le Parlement des enfants s'est déroulé comme toujours. On espère que cela promet des femmes assez fortes et qui envahiront et prendront enfin la place qui leur est due dans les parlements. En France, procès à Douai de trois violeurs, trois jeunes gens qui racontent leurs viols habituels et leurs petites habitudes. Ces garçons, sains, soi-disant, normaux, qui ont tous eu une enfance normale et une vie normale, deux d'entre eux sont mariés, ont violé 9 jeunes filles, tenté d'en violer 3 autres et tué une femme. L'accusation devra se demander pourquoi et essayer de comprendre. Un secrétaire d'État britannique contraint la démission après des révélations sur sa vie privée. Le gouvernement britannique vient de perdre un grand défenseur des valeurs familiales. Il a été surpris avec une jeune femme qui n'était pas la sienne. Rod Richard, secrétaire d'État au Pays de Galles, a annoncé qu'il démissionnait quelques heures après qu'un journal l'ait montré avec une jeune femme dans une position pas très orthodoxe. Rod Richard, ancien patron de pub, était l'un des plus fermes défenseurs de la famille et de la morale au sein de son parti. La morale pour les autres, pas pour eux, bien sûr. Il est le 5e ministre ou secrétaire d'État conservateur qui a dû démissionner suite à des révélations scandaleuses sur des aventures extra-conjugales. Rappelons que les conservateurs ont lancé sans succès, il y a 3 ans, une campagne sur le thème des retours aux valeurs normales, bien sûr, pour les autres. Et puis en Angleterre, il faut fumer ou adopter, il faut choisir. Les fumeurs britanniques de North Yorkshire ne pourront plus adopter d'enfants. Ainsi en ont décidé les services sociaux du comté en usant d'un subtil subterfuge. À situation de couple légal, les parents non fumeurs auront la priorité. Sachant que le nombre de demandes est très supérieur à celui des adoptions, les fumeurs sont de fait exclus des listes de parents potentiels. Les Ivoiriennes ne veulent pas rester célibataires toute leur vie, à commencer par le membre du syndicat national des femmes célibataires qui réclame des autorités la législation de la polygamie afin de permettre au plus grand nombre d'elles de trouver un époux. L'Europe veut protéger davantage ses travailleurs. L'Union européenne a adopté une directive sur le congé parental. Les hommes comme les femmes auront le droit de prendre congé s'ils deviennent père ou mère. L'Europe sociale avance à petits pas, mais elle en fait. L'un concerne le congé parental, l'autre, sous fond de dumping social, vise à clarifier le statut des travailleurs détachés en assimilant leurs conditions de travail et de rémunération à celles de l'État où ils sont déplacés pour faire un travail. La directive sur le congé parental adoptée hier par les ministres est une première car elle reprend les termes d'un accord négocié directement par les partenaires sociaux au niveau européen. Cette procédure, prévue par le protocole social de Maastricht, avait débouché en décembre dernier sur un texte commun. La directive européenne qui en découle devrait être mise en œuvre d'ici 2 ans. Cette nouvelle législation énonce des prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui travaillent. Pratiquement, elle prévoit un congé parental de 3 mois au moins jusqu'à un âge pouvant aller jusqu'à 8 ans. Ce droit individuel est accordé à tous les travailleurs, hommes et femmes, suite à une naissance ou à une adoption. Bien que l'application de la directive soit laissée à la discrétion des États ou des partenaires sociaux, il est prévu certains garde-fous pour interdire le licenciement ou la perte des droits acquis en cas de demande et de prise de congé parental. La directive sur les travailleurs détachés revêt également un intérêt majeur puisqu'elle devrait permettre de tarir une source redoutée de dumping social. En effet, certaines activités au sein de l'Europe sont couramment accomplies dans les États à main-d'œuvre chère par des travailleurs venus d'ailleurs, d'autres pays de la communauté, où règnent des conditions salariales et sociales moins favorables. La directive doit notamment s'appliquer au montant des salaires minimaux, à la durée des congés, aux périodes maximales de travail ou encore aux règles de sécurité, de santé et d'hygiène. En même temps, d'un côté, l'Europe sociale se met en place. De l'autre côté, le patronat international, lui, rejette toute instauration d'une clause sociale. L'Organisation internationale des employeurs dit son inquiétude face à des sanctions contraires à la libéralisation économique. La 83e conférence internationale du travail s'est ouverte à Genève. Les représentants des gouvernements employeurs, travailleurs de 173 pays sont là. Ils sont venus débattre des conséquences sociales de la mondialisation pendant 3 semaines. Les sujets controversés ne manquent pas. L'Organisation internationale des employeurs a précisé dès le début de la conférence qu'elle refuse tout lien entre commerce et normes de travail. Le débat sur une clause sociale n'est pas officiellement à l'ordre du jour. Il occupera toutefois les discussions en coulisses. L'idée de sanctions commerciales pour faire appliquer les normes de travail dans les différents pays est également rejetée par la délégation suisse, toujours au nom de la libéralisation et du droit du commerce. Les délégués vont s'occuper plus spécialement de 2 sujets d'actualité, la définition et le contrôle du travail à domicile, ainsi qu'une convention sur le travail des enfants. La question du travail à domicile est un dossier controversé puisqu'il risque, il est en plein développement en raison entre autres des possibilités offertes par la télématique. C'est surtout un travail qui s'adresse aux femmes et certains voudraient garantir l'égalité de traitement entre travailleurs à domicile, souvent sans protection sociale, et les autres salariés. D'autres soulignent les spécificités et la diversité des situations pour s'opposer bien sûr à toute réglementation. La lutte contre le travail des enfants fera l'objet d'une réunion spéciale. Elle viserait à interdire les formes les plus intolérables de l'exploitation des enfants. Les autres iraient. En Suisse, la Confédération met 1,5 million en faveur de l'égalité. Cette année, 1,5 million de francs sont à disposition pour soutenir la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes dans la voie vie professionnelle. Cette aide financière ira à des projets novateurs et à des services de consultation accessibles en permanence à un large public. Selon la nouvelle loi, la Confédération peut participer au financement de programmes d'encouragement qui contribuent à la réalisation de l'égalité. Les directives précisent que ces projets concerneront l'égalité sur le lieu de travail, la compatibilité entre activités professionnelles et tâches sociales, le choix d'une profession, la formation, le perfectionnement, etc. et une sensibilisation à la problématique de l'égalité entre les sexes. Autant que possible, les projets doivent être novateurs, axés sur la pratique, avoir un impact. Ils peuvent émaner d'organisations, d'institutions publiques, privées, pour autant qu'ils ne soient pas en activité, donc mettre en concurrence. La Confédération peut ainsi allouer des aides financières à des services de consultation qui informent et conseillent les femmes sur des questions d'ordre professionnel et plus généralement le monde du travail. Le Bureau fédéral de l'égalité a élaboré des instructions et des formulaires relatifs au dépôt de demandes d'aide financière. Elles sont disponible dès maintenant, alors que le délai pour le dépôt de demande court jusqu'au 25 août. Des séances d'information sont prévues à Bellinzone et à Berne. En Suisse, les femmes socialistes ont pris le pouvoir à Neuchâtel. Monica Duzang, 51 ans, est la première présidente de l'exécutif communal. Elle qui a rétabli l'équilibre financier de la ville méritait largement cet honneur. Ce n'est pas tout. La veille, le Parlement communal avait élu à sa tête Raymond de Vicky, autre étoile du Parti socialiste. Et le groupe socialiste, qui compte 8 femmes élues sur 15 mandats, est bien sûr dirigé par une femme, Pierrette Erard. À Genève, les employés des diplomates sont toujours exploités, des dizaines de cas en suspens. Une jeune femme vient de dénoncer les conditions de travail intolérables que lui impose un diplomate européen. Les médiateurs s'occupent d'une quarantaine de cas, dont plusieurs sont jugés très graves. Elle s'est employée à domicile d'un diplomate représentant un État du Nord de l'Europe. Recrutée au Canada, elle est installée à Genève depuis 2 mois. Le climat de travail est insoutenable, dit-elle. Les journées sont interminables. Elle commence à 7 heures et jusqu'à 22 heures, le tout pour un salaire de 368 francs par semaine. À cela s'ajoutent les injures continuelles dont elle est l'objet. Tant mon employeur que ses enfants me tiennent, dit-elle, des propos orduriers. Figure classique, craignant d'être licenciée, la jeune femme n'ose pas se rebeller. Pourtant, l'économie domestique est régie par un contrat type. Il stipule que l'employé peut accomplir jusqu'à 50 heures par semaine, nourri, logé pour un salaire de 2 300 francs. Cette affaire n'est pas exceptionnelle. Depuis leur entrée en fonction en juin 1995, les amiables compositeurs, chargés par le Conseil d'État de régler des litiges entre fonctionnaires et domestiques, ont été saisis d'une quarantaine de cas. Nous avons pu trouver des solutions, nous avons pour une dizaine d'entre eux, explique l'un des représentants du Collège des médiateurs, mais leur mission, il est vrai, n'a pu débuter qu'à partir de septembre. Sans trahir le secret de fonction auquel il est tenu, l'avocat précise que parmi les affaires qui lui ont été adressées, quelques-unes sont dramatiques. Quant à lui, Cid, fondateur du syndicat Sans Frontières, qui s'occupe de ces dossiers, il affirme avoir actuellement 68 cas réglés. Une vingtaine d'entre eux sont particulièrement scandaleux. Ses employés sont véritablement séquestrés. Leurs employeurs leur prennent leur passeport et leur interdisent de sortir hors de leur lieu de travail. Le magasin allemand Brigitte a publié il y a une quinzaine de jours le récit de plusieurs ressortissantes du Sri Lanka, employées de maison. Chez des diplomates, les jeunes femmes travaillent 18h à 20h par jour pour des salaires entre 70 et 190 francs par mois. Deux affaires qui sont tombées entre les mains du syndicat Sans Frontières et qui ne sont pas encore complètement résolues. Depuis sa fondation, le syndicat a cependant remporté une trentaine de victoires. 20 d'entre elles ont été tranchées par les tribunaux genevois. À préciser que les diplomates sont d'origine pour tous les pays. Bien sûr, le Moyen-Orient est hyper représenté, mais l'Europe également y tient une bonne part dans les mauvais traitements. Et pour terminer, une nouvelle terrible qui nous vient d'Angleterre. Si vous êtes un adepte du téléphone, attention, les médias britanniques continuent de distiller les horreurs de la vie quotidienne. C'est le téléphone portable. Et oui, il est très dangereux. Après la vache folle, c'est le téléphone fou. Où s'arrêtera donc le progrès ? Doivent se demander les millions de propriétaires de cet appareil, un temps considéré comme un signe extérieur de statut social pour les youpies du monde entier et qui est devenu l'instrument de travail des hommes d'affaires pressés. 85 millions de personnes à travers le monde. Eh bien, la chaîne BBC, dans une émission de grande écoute, a prouvé que c'est très dangereux. Ça peut causer la maladie d'Alzheimer ou encore accélérer le développement des cancers en contaminant les cellules du cerveau. Ces appareils sont comme des mini-transmetteurs qui reçoivent des micro-ondes qui pourraient endommager le cerveau. C'est pourquoi le BBC précise, si vous devez l'utiliser, mettez au moins une oreillette ou changez d'oreille. En tout cas, Volkswagen déconseille de téléphoner de sa voiture, de quoi stresser encore plus les businessmen qui jouent en bourse d'une oreille pendant qu'ils s'impatientent au milieu des embouteillages. À vrai dire, moi j'ai toujours trouvé ça complètement ridicule, les gens qui téléphonent, à part les chirurgiens ou les chefs d'État ou éventuellement quelques militaires haut placés, je ne vois pas qui d'autre a besoin d'un téléphone portable. C'est la chose la plus ridicule que des gens qui téléphonent dans la rue. Et puis, deux petites nouvelles terribles. Une histoire de famille vraiment touchante, en quelque sorte. C'est celle d'un enseignant libanais, victime d'une crise cardiaque. Sa mère est morte en apprenant la nouvelle. Quand l'enseignant est sorti du coma et qu'il a appris qu'il était la cause du décès de sa mère, eh bien, rebelote, il est mort. Quand on a annoncé la tragédie au père, celui-ci aussi est mort d'une crise cardiaque. Vraiment, quel amour! Et puis, une initiative des plus étranges. Un conseil municipal dans l'état de Tocantin, au Brésil, en pleine Amazonie, a approuvé la construction d'une réplique exacte de la tour Eiffel en pleine forêt amazonienne. Et oui, vous avez bien compris. Des géomètres et des ingénieurs ont été envoyés à Paris pour prendre les mesures de la tour. Le Brésil entend ainsi rendre hommage à la France. Quelle idée, vraiment. On n'arrête pas la bêtise. C'était le journal de la pleine lune sur 93.8 MHz. Dans quelques instants, quelques rendez-vous. Et puis Marjolaine vous ouvre son cœur.
Falling for make-believe. Falling in love with love is playing the fool. Caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust is just for children in school. I fell in love with love one night when the moon was high. I was unwise with eyes unable to see. I fell in love with love, with love everlasting. Then love fell out with me. Falling in love with love is falling for make-believe. Love is playing the fool. Caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust is just for children in school. I fell in love with love one night when the moon was high. I was unwise with eyes unable to see. I fell in love with love, with love everlasting.
Alors, quelques rendez-vous. Le 8 juin, une causerie sur le thème femmes immigrées, interruption de grossesse, causalité, prévention, colloque public organisé par l'Union Suisse pour la décriminalisation de l'avortement, exposé en allemand. Ça a lieu à... ça a lieu où ? Je suis désolée. Je ne vois pas où ça a lieu. Eh bien, vous téléphonez pour avoir des informations à Femmes Information au 740 31 00. Je répète, 740 31 00 pour avoir toutes les informations sur ce colloque qui aura lieu le 8 juin sur le thème Femmes immigrées et interruption de grossesse organisé par l'Union Suisse pour la décriminalisation de l'avortement. Autre conférence, le mardi 11 juin à 20h, sur le thème « Travail familial et domestique, reconnaissance des acquis dans le salaire d'embauche ». Vous vous souvenez que dans certains cantons suisse-allemands, à Berne entre autres, l'État tient compte d'un travail familial et social pour calculer les annuités. C'est Madame Joy Mater, conseillère administrative de la ville de Berne, qui a été l'initiatrice de cette mesure, qui viendra parler de cette de cet acquis très très important. Ça a lieu à l'Université ouvrière le 11 juin à 20h, rue du Cercle 10, dans le quartier des Grottes, et c'est organisé par le SPAF, le syndicat des personnes actives au foyer et à temps complet. Les journées scientifiques de la médecine sociale et préventive cette année tourneront autour du thème des femmes et la santé. C'est un congrès qui a lieu à Bâle à partir du 13 et du 14 juin. Pour s'inscrire, le 061 267 60 66. 061 267 60 66. Et vous en profiterez sûrement si vous allez à Bâle pour voir la magnifique exposition Pandora, la femme dans la Grèce classique. C'est au musée de l'Antiquité de Bâle, Antiken Museum, et ça a lieu jusqu'au 23 juin, une exposition spéciale qui montre à partir de toutes les représentations des femmes, que ce soit sur les poteries, sur les bas-reliefs, sur les mosaïques, quelle était en fait la situation, qu'est-ce qu'on peut en apprendre de la situation des femmes dans la Grèce antique. Et puis, vous rappelez encore que le Bureau de l'égalité vient de sortir des instruments tout à fait utiles sur la manière d'évaluer son salaire et de voir si on n'est pas discriminé par rapport à ses collègues. Ce sont de petits ouvrages, l'égalité des salaires en pratique. Vous pouvez les commander, entre autres, à la librairie L'Inédite, 18 avenue Cardinal Mermillot. Et puis, pour terminer par un peu de fête, avant que Marjolaine vous ouvre toutes ses fêtes, sachez que pour sauver la rade, vous pouvez encore aller le 9 juin pour fêter la victoire, on l'espère en tout cas, que le Centre Femmes Nathalie Bernet à Champelle vous invite à son bal le dimanche 9 juin. Non, excusez-moi, le samedi 8 juin aussi, avec un centre tout nouveau, tout beau. Alors, c'est donc à l'avenue Péchier. C'est un centre plus ou moins, pas réservé, mais en tout cas, où les lesbiennes sont très bienvenues. Et puis, vous invitez également à vous préparer un concert, là, qui aura lieu à la fin juin, mais notez-le déjà dans votre agenda. C'est l'Orgue de Marcellus Alto, accompagné par Marion Pellegrini à l'orgue, qui nous interpréteront des œuvres de Handel, Bach, Mendelssohn et Rossini. C'est au Temple des Crêts, c'est au Grand Saconnet, et c'est le 26 juin à 20h30. Voilà. Pour ma part, c'est terminé. Marjolaine s'affaire autour de moi, elle se prépare, son cœur est gros, en tout cas, ses documents sont... Il y a une pile de documents, c'est impressionnant. En tout cas, c'est vrai que ce mois de juin, on ne sait plus où donner de la tête. On a envie de simplement aller dormir. Quant à moi, c'est ce que je vais faire. Allez, je vous embrasse. À la semaine prochaine. C'était La Pleine Lune sur 93.8 MHz, les nouvelles.
Disguise the look of love was written plainly in my eyes. I know you'd be mine again if you could see. Gone. Why did he do it?
Ne quittez pas l'écoute. Dans une minute, c'est le Memento de Marjolaine.